Jean Genois.
Deuxième partie.
Donc Corinne, si je m'abuse, tu vas nous parler d'un roman de Nature Writing.
Nature Writing, oui et non. Oui, parce qu'on se retrouve dans un endroit paumé du sud des États-Unis, le Mississippi. Oui, parce que les personnages font partie des laissés pour compte du système. Et pour cause, des Noirs dans le sud de l'Amérique. Non, parce que le sujet principal, c'est pas l'homme qui vit avec la nature, nature hostile ou bienveillante. Ce n'est pas l'isolement, quoique. Mais le sujet, c'est vraiment la ségrégation, le racisme, toujours omniprésent. Et puis les vieilles histoires très violentes qui se sont produites lors du mouvement des droits civiques dans les années 50-60.
Donc tu vas peut-être nous dire le titre.
Oui, c'est vrai, oui, j'avais oublié. Donc c'est un roman qui s'appelle « Rien dans la nuit que des fantômes ». C'est aux éditions Seuil. Son auteur, c'est une auteure d'ailleurs, Chanel Benz. C'est son premier roman et le roman est traduit par David Falkenberg. Au début de celui-ci, on découvre Billy James, c'est une jeune femme, une métisse, qui vient prendre possession de la maison délabrée qui fut celle de son père. On est à Greendale, je l'ai dit précédemment, c'est dans le Mississippi. Elle s'installe donc avec son chien, Rufus. Tout de suite, l'hostilité, le mystère même entoure sa venue. Sa famille devrait se précipiter vers elle, mais ses cousins, enfin surtout les cousines, parce que les cousins ils sont déjà en tôle, destin assez courant pour un blague dans cette partie de la ville, les cousines donc ne se pressent pas pour faire une réunion de famille. Étrange. Quant à son oncle, la personne la plus proche d'elle, dit « il est vraiment réticent ». Billy sent bien qu'il lui cache des choses et que cela tourne autour de la mort de son père Cliff et autour d'elle-même, qui avait à l'époque 4-5 ans. Cliff, son père, c'était un poète célèbre, un écrivain, qui était un emblème de la lutte contre les discriminations à cette époque-là, et qui est mort lors d'un accident.
Et donc Billy revient, mais elle devient gênante.
Oui, en gros, c'est vrai, c'est le moins qu'on puisse dire. Surtout quand elle se rapproche des Blancs, et particulièrement de la famille McGee, qui étaient les anciens, entre guillemets, propriétaires de la famille de Billy, comme d'ailleurs de beaucoup d'autres familles de Noirs dans la ville. On découvre ce qu'on savait déjà, les relations troubles depuis la nuit des temps, depuis l'esclavage en fait, les hommes blancs ayant les femmes noires comme maîtresses ou les violents, et les jeunes, les enfants qui au départ sont éduqués tous ensemble, meilleurs amis du monde, mais jusqu'à 13 ans, parce qu'après on revenait à la relation de maître à esclave.
Un roman sur l'esclavage donc.
Plus généralement, sur les relations perverses entre les blancs et les noirs, édictées à l'avantage des blancs bien sûr, dans ces états sécessionnistes. Le côté paternaliste, d'une part, et puis le Ku Klux Klan, les assassinats et les lynchages impunis, d'autre part. Et lorsque les droits civiques sont enfin votés, rien ne change vraiment jamais. C'est peut-être même pire, comme l'attestent les écrits du père de Billy, je rappelle son nom, Cliff James. Cliff James, merci. Quand la ségrégation raciale est devenue illégale dans les écoles publiques, à partir de là, c'est devenu l'enfer. Le grand retour de la suprématie blanche. À l'heure actuelle, puisqu'en fait on partage plusieurs époques, le temps de l'esclavage, le temps des droits civiques, et maintenant, à l'heure actuelle, la ségrégation, elle se voit immédiatement par l'argent. D'un côté, les blancs nantis, de l'autre, les familles noires, dont les jeunes ne voient que les trafics de drogue, entre autres, pour s'en sortir. Et puis, il y a les femmes qui se marient très jeunes, qui ont 3, 4, 5 enfants, et la misère qui court. Comme le montre d'ailleurs le partage de la ville que parcourt Billy. Cette césure entre les quartiers blancs, propres, aux belles demeures bien entretenues, on voit les jardins. Et puis, d'un coup, passage immédiat au glauque, aux mobilhomes, aux maisons en ruine qui suintent la misère.
Et donc, il y a un personnage, me semble-t-il, que tu n'as pas encore évoqué.
Oui, alors, c'est celui qui rejoint Billy au bout d'un moment, c'est le professeur Melvin Hurley. Lui, il prépare un livre sur le père de Billy, Cliff James. C'est l'universitaire Melvin Hurley, légèrement caricatural. le binoclard d'intellectuel un peu flué, plus fait d'ailleurs pour la rhétorique que pour la bagarre.
Blanc ?
Oui, blanc. Non, pardon, excuse-moi. Noir, non, noir, je me trompe. Mais il arrive des États du Nord. C'est en quelque sorte une métaphore de l'auteur elle-même, puisqu'elle est universitaire et enseignante.
Et noir donc aussi, métisse tu disais.
Métisse, et sur la photo de la quatrième de couverture, il semble qu'elle soit métisse. C'est donc à travers le personnage de Melvin Hurley qu'on retrouve l'auteur. Et il y a aussi une autre universitaire, il y a la mère de Billy, une blanche. Il s'était trouvé avec le père de Billy lors de la lutte pour les mouvements des droits civiques. Et elle s'est séparée du père de Billy. Après la séparation, elle a repris ses études et elle est devenue médiéviste. Il y a même un drôle de rapprochement d'ailleurs dans le bouquin, en filigrane de tout le récit. Puisque la maman était médiéviste, Billy parle de romans, enfin pardon, de livres, de documents qui, au Moyen-Âge, parlent de la vie des enfants et des serfs, qui, évidemment, ne vaut pas grand-chose. Parallèle au XXe siècle, la vie des Noirs, qui ne vaut pas plus, voire rien du tout.
Et d'ailleurs, je pense qu'au XXIe, ça n'a pas beaucoup évolué non plus.
Exactement.
Donc, pour conclure...
La libération culturelle des Noirs a eu lieu avant tout en littérature. C'est une des phrases clés du roman, c'est une des phrases qui m'a marquée. Donc c'est une des phrases que je vous livre. Et puis il y en a une autre aussi, qui est sur la quatrième de couverture. Elle est de Faulkner. Faulkner, William Faulkner, je rappelle, grand écrivain du Sud. Il était du Mississippi, hein, lui aussi. Et cette phrase, elle dit « Le passé n'est jamais mort, il n'est même pas passé ».
C'est, voilà. Donc, c'est exactement ce qu'on
c'est,
dire
c'est exactement le thème du roman. Et ça pourrait aller d'ailleurs dans beaucoup de romans noirs avec ce passé et ce présent. C'est un premier roman intéressant qui ne nous apprendra pas grand-chose sur la situation des Noirs, mais qui nous rappelle quand même un contexte, une situation unique. Et ça, ça fait pas de mal. Alors, on est dans le Mississippi, on est dans la ségrégation et le racisme, sur les bords du Grand Fleuve. C'est l'occasion d'écouter un morceau rare, Jacques.
Un morceau rare, une chanteuse de blues du Mississippi, dont on ne sait pas vraiment grand-chose. Elle serait née en 1905, et il y a seulement deux de ses chansons qui nous sont parvenues. Down the Big Road Blues et Tallahassee River Blues.
C'est ce morceau qui est évoqué dans le roman dont je viens de parler.
Et c'est celui-là que nous allons écouter. Alors, c'est un enregistrement de février 1930, donc avec du son d'époque. Et la chanteuse s'appelle Mattie Delaney.
Go back to Go pack my suitcase, go back to Tennessee. For this Tallahassee River Don got the best on me.
C'est donc Mathie Delaney, une voix très 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 rare.
C'est elle qui joue de la guitare aussi d'ailleurs, j'ai oublié de préciser.
J'ai dit au début de cette émission que nous allions aux quatre coins du monde, mais je crois que toi tu vas quand même rester dans le nord de l'Europe.
Oui, au début de l'émission nous étions à Tallinn, là je vais vous amener à Glasgow, toujours au nord. En fait ça fait que 5 degrés de latitude plus bas, on est toujours en hiver, on est un peu plus à l'ouest et il y a toujours de la neige. L'auteur dont je vais parler se nomme Alan Parks. Le roman « L'enfant de février », il est publié par les éditions Rivage et il est traduit de l'écossais par Olivier de Paris. Ou de Paris peut-être. On retrouve le flic Harry McCoy, le flic désormais récurrent, créé par Alan Parks dans son premier roman « Janvier noir ». Ce roman en est la suite directe, puisqu'on retrouve Harry à la fin de ses 3 semaines de congé bien méritées après l'épilogue de « Janvier noir ».
C'est donc, comme tu viens de le dire, la suite de Janvier Noir. Il faut avoir lu le premier pour pouvoir débuter celui-ci ?
Pas du tout. D'ailleurs, en fait, moi, je ne l'ai pas encore lu. Donc, vous voyez qu'on peut très bien lire le deuxième sans avoir lu le premier. L'auteur nous dit ou nous fait comprendre ce dont on a besoin. On imagine le reste. McCoy, il rentre de vacances forcées, disons. Il va vite être mis dans le bain avec un meurtre assez horrible, celui d'un footballeur du Celtic Glasgow. Pour bien faire, si j'ose dire, le joueur a été torturé avant, mais méchamment torturé avant d'être exécuté d'une balle. L'affaire va vite devenir virale dans les médias, surtout que le sportif était le petit ami de Hélène, la fille de Jake Scobie, le chef des mafias glasvégiennes.
Glasvégiennes,
oui, c'est comme ça qu'on appelle les habitants de Glasgow.
Ah, ben je viens d'apprendre quelque chose.
Donc, McCoy, le héros, et son ami Watty, son adjoint, pardon, c'est un peu son ami aussi, ils vont plonger dans les bas-fonds de la ville écossaise, et même dans la Clyde glacée, de façon physique, la rivière, la Clyde étant une des rivières qui traverse Glasgow. Une guerre des gangs se profile, une guerre à laquelle va être mêlé Stevie Cooper, c'est le troisième personnage, qui est un gangster, donc, mais qui est aussi l'ami d'enfance de McCoy.
Finalement, c'est une intrigue. Disons que toute cette situation, le meurtre évidemment, et puis les bas-fonds, la mafia, à Glasgow, c'est une histoire qu'on a déjà un petit peu lue.
Oui, on l'a lu, on l'a même vu, ça fait un peu certains films noirs américains. C'est vrai que les enquêtes d'une brigade de flics, les démêlés et la collusion avec la pègre, on l'a effectivement déjà lu. Mais Alan Park réussit à rendre son livre très vivant, très prenant, d'abord avec ses descriptions de la ville et de la vie de Glasgow et de ses banlieues, surtout les banlieues pauvres. Ce qui me permet de préciser, ce que je n'ai pas encore fait, que l'action se passe dans les années 70, en 1973 pour être précis. Cela donne certes une ambiance un peu rétro avec des talkie-walkie pour communiquer entre flics, on peut encore fumer dans les pubs et ils ne s'en privent pas. Pas plus que de boire, ça c'est toujours autorisé. Enfin, presque. Ça va pas durer longtemps. C'est aussi l'époque où Glasgow voit la fermeture de ses chantiers navals et le déclin des principales industries de la région, avec pour conséquence assez classique le chômage, la pauvreté et évidemment la violence dans les quartiers les plus défavorisés. L'auteur nous raconte aussi, on le sait déjà, mais il le raconte bien, la rivalité entre les supporters du Celtic et ceux des Rangers. Celtic de Glasgow, Glasgow Rangers, les deux équipes de foot de la ville. Grosso modo, en fait, c'est les cathos contre les presbytériens, les Irlandais contre les Écossais, les familles pauvres contre les riches. Et puis, comme on est dans les années 70... C'est aussi avoir de la super musique à la radio dans les jukebox des pubs. Les Stones, Hendrix, Rod Stewart, etc.
Alors, on a parlé musique, on a parlé Glasgow, mais le personnage principal, qui, comme tu viens de le dire, est un personnage récurrent qu'on ne va pas, certainement pas abandonner
tout de
à
suite.
Ce deuxième.
Non. Bah alors, le flic, Harry McCoy, c'est un personnage plutôt hard-boil, une version écossaise du flic Callaghan de Peter Cheney. Il n'hésite pas à aller à la castagne quand il faut, il sait encaisser les coups et il sait aussi les rendre. Il ne rechigne pas devant un verre, voire deux ou plus, et s'ils sont éventuellement accompagnés d'un brin de dope ou de poudre, il n'est pas contre, bien qu'il soit du côté de la loi.
Oui, un tough guy américain avec un petit peu de poudre en plus, quoi.
Voilà, voilà. Et à Glasgow. On va en apprendre un peu plus sur son enfance. Donc, à l'époque où il était copain avec Stevie Cooper, et se rendre compte que la classique maltraitance des enfants dans les pensions anglaises semble être aussi de règle en Écosse. On va mieux comprendre du coup ses relations ambiguës avec ce brigand, enfin ce gangster de Stevie Cooper, qui est malgré tout, il a beau être son meilleur ami, c'est aussi un dealer et un pimp, comme on dit dans les romans américains, donc un macro.
Pimp, oui, c'est le mot pour macro.
Et puis McCoy est certes un personnage de fiction, mais un type qui n'aime ni les footballeurs, ni les rugbymen qu'il prend pour des abrutis, c'est un personnage auquel, du coup, on a un surplus de sympathie.
Et donc, j'ai parlé de personnages récurrents. Est-ce que tu sais s'il y en a d'autres qui vont être traduits ou s'il y en a d'autres de publiés en Écosse, justement ?
Alors oui, en fait, en VO, il y a déjà celui de mars, puisqu'apparemment, donc, janvier, février, il a l'air d'en faire un par mois. Donc celui de mars est déjà paru en Angleterre et en Écosse. Il s'appelle Bobby March Will Live Forever. Mais en fait, bon, s'il n'en fait qu'un roman par an, on n'est quand même pas prêt de voir des histoires de voir Glasgow à l'été 73. Hein.
Ce qui veut dire que cet homme miraculeux, McCoy, il résout ses enquêtes en moins d'un mois.
Ah ben oui, là, ça va assez vite, les époques, à l'époque, ils ne mettaient pas six mois pour...
Ils n'avaient pourtant pas de scientifiques
voilà, hein,
pour aider, mais bon. Je suis sûre qu'avec tout ce que tu viens de nous dire sur les années 70, on va se retrouver avec un bon vieux groupe de rock ces années-là.
Voilà, ben alors, les Stones, puisque je les ai cités, l'album des Stones de 1973, puisqu'on est en 73, il s'appelait God's Soup. Vous savez, c'est celui dans lequel il y avait Angie. Mais il y a aussi une chanson qui s'appelle Winter, et puis comme on a dit qu'on était en hiver, aussi bien à Tallinn que là, on va s'écouter Winter, les Rolling Stones.
C'est la fin de notre émission. On vous dit au revoir Jacques.
Au revoir Corinne, au revoir à tous.
Chacun dans son coin, c'est le cas de le dire en ce moment, oui, avec un bon bouquin.
Au plaisir.
À la prochaine émission.
Bonsoir.